Mémoire vive,
présentée par Perrine Kervran
et préparée par Rachel Rimer, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah avec RCJ. Bonjour à tous, comme tous les dimanches, Mémoire vive met au présent l'histoire de la Shoah et la culture du judaïsme. Au sommaire, ce dimanche, un livre poignant qui revient sur la rafle du Veldiv. Une rafle qui a eu lieu les 16 et 17 juillet 1942 à Paris, en région parisienne, et qui a pris au piège 12 884 juifs, hommes, femmes, enfants, vieillards. Les familles ont été rassemblées au vélodrome d'hiver pendant 5 longues journées dans des conditions épouvantables et les adultes isolés sont allés à Drancy, avant d'être pour la très grande majorité déportés vers les camps d'extermination nazis. Mais ce livre est autre chose qu'un récit de ces tristes journées, c'est un recueil de lettres. De ces lettres qui ont été envoyées en urgence et par des moyens détournés par les prisonniers vers ceux qui sont restés à l'extérieur. Des lettres pour rassurer, pour prévenir, des lettres pour demander de l'aide ou des provisions, des lettres pour parfois dire au revoir et tenter de sauver les enfants. Ces lettres ont été rassemblées par Karen Taïeb, qui dirige les archives du Mémorial de la Shoah. Elle est avec nous pour en parler aujourd'hui. Bonjour.
Bonjour.
Alors pour commencer, Karen Taïeb, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a décidé à faire ce livre ?
C'est Dominique Missika qui m'a décidé à faire le livre quand je lui ai parlé des lettres écrites du Veldiv et que j'avais retrouvées dans les archives du mémorial. Elle a réussi à me convaincre que j'étais pas forcément la moins bien placée pour m'occuper de la publication.
Et donc rien n'avait été fait jusque-là pour rassembler ces documents qui étaient venus du Veldiv. Ils n'avaient pas été spécialement repérés comme tels.
Non, pas spécialement. Ces lettres sont conservées avec beaucoup d'autres, écrites par les familles juives ou les personnes internées, arrêtées, qui ont vécu la guerre en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais elles n'avaient pas été particulièrement isolées, identifiées, effectivement. Souvent, les gens qui nous confient leurs lettres mettent l'accent sur la dernière lettre écrite, parce que c'est la dernière trace. Rarement sur la première. Donc, j'ai retrouvé la lettre d'Edith Chouova, un peu par hasard, en ouvrant un dossier pour mener une recherche, j'ai constaté que c'était donc une troisième lettre écrite du Veldiv que nous avions dans nos collections par rapport à deux qui étaient déjà présentées dans notre exposition permanente. Et à ce moment-là, je me suis dit que si nous en avions deux, puis une troisième, il était probable que nous en ayons d'autres. Et donc nous avons réouvert avec mes collègues tous les cartons d'archives comportant des lettres. Et on arrive à cette collection de 21 lettres écrites dans le Veldiv.
Et qu'est-ce qui vous a semblé important, intéressant, dans l'idée de rassembler ces lettres justement du Veldiv ?
Eh bien justement parce que j'ai été surprise, choquée, étonnée que moi-même, connaissant quand même bien cette période et les archives de cette période, ces lettres étaient si peu connues. La rafle du Veldiv, on en parle beaucoup, on la connaît, c'est très symbolique. Finalement, on en sait assez peu de choses dans le détail, dans le concret. C'est-à-dire que la lettre d'Edith Chouova, par exemple, qui nous apprend qu'elle a demandé un colis, mais surtout que le colis, elle l'a reçu dans le Veldiv, moi, ça m'a stupéfaite. J'ai été très surprise. Donc si nous, bons connaisseurs de cet épisode, on arrive à être surpris par le contenu de ces lettres, c'est qu'il devait y avoir d'autres choses à y trouver.
Oui, puis il y a un autre intérêt qu'il faut souligner aussi, peut-être, Karen Taïeb, c'est le fait que la censure a bien marché à l'époque. Il n'y a aucune trace dans la presse de ces rafles qui ont pourtant arrêté, donc on l'a dit, hein, 12 884 juifs. C'est un chiffre énorme. En deux jours, ça n'a pas pu passer totalement inaperçu. Je pense qu'il y a des écoles qui, du jour au lendemain, se sont retrouvées vides, des immeubles à moitié vides aussi, du jour au lendemain. Et pourtant, il n'y a presque rien. Donc ces lettres sont ce qu'on peut avoir sur ces rafles.
Oui, tout à fait. C'est, on l'a dit, une rafle très connue, mais qui a laissé peu de traces documentaires et archivistiques, en fait. Donc oui, on parle beaucoup de la rafle du Veldiv dans la plupart des témoignages, où quand on rencontre les gens, ils nous disent « mes parents ont été pris lors de la rafle du Veldiv », etc. Mais des écrits, il y en a très peu. On a donc une seule photo qui est connue du Veldiv au moment de la rafle en juillet 42, des documents administratifs qui organisent les façons dont les arrestations doivent être réalisées, donc des choses vraiment très, très sèches dans les archives de la préfecture de police ou autres. Mais la presse ne fait aucune mention de la rafle. Effectivement, il y a la censure. Et donc, en dehors de ces lettres écrites, dans l'enceinte même du Veldiv, rien. Ou quelques témoignages, enfin rien. quelques témoignages des survivants, des internés eux-mêmes, donc très peu ont survécu, mais il y en a eu quelques-uns. Certains se sont évadés, d'autres sont revenus de camp, donc ils ont témoigné, ils ont pu écrire. Ils ont été publiés d'ailleurs, ces témoignages, mais en termes de documents primaires, voilà, ces lettres sont tout à fait uniques.
Et donc vous avez pu constater effectivement que quelque chose s'était organisé pendant ces 5 ou 6 journées, de l'ordre de la survie, de l'ordre du contournement, pour faire passer des lettres, pour en recevoir, pour faire passer des colis, pour en recevoir, pour s'organiser le moins mal possible.
Bien sûr, on s'adapte. Dans toutes les situations, on s'adapte. Le témoignage du sapeur Baudevin qui est arrivé à peu près au même moment où je commençais à rassembler ces lettres, qui est arrivé d'ailleurs jusqu'à nous de façon un petit peu détournée, d'abord par un envoi par courrier à Simone Veil, donc à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, qui nous a ensuite été envoyé. Le sapeur Baudevin, donc, qui a été affecté à la surveillance, son équipe de sapeurs-pompiers a été envoyée au Veldiv pour des raisons techniques. Ces journées de juillet 42 racontent comment lui et ses collègues ont été, entre guillemets, pris à partie par les internés en leur demandant de faire passer des lettres à l'extérieur. Donc c'est une des méthodes qui a été employée, effectivement. On a d'autres cas, des lettres qui nous expliquent comment les lettres ont pu sortir. Donc une parle d'un gendarme qui va faire sortir la lettre, une autre fait allusion à une personne qui va être libérée et donc qui elle aussi va faire sortir une lettre. Donc tous ces moyens conjugués ont fait que quelques lettres ont pu sortir. Certaines ont pu arriver ou pas. Après, la question de leur conservation, c'est encore une autre histoire.
Alors justement, si on revient sur la question de la conservation, comment est-ce que ces lettres sont arrivées jusqu'au mémorial, jusqu'à vous ?
Les lettres du Veldiv ont toutes fait l'objet d'un don individuel privé. On est en fait une grosse partie de notre activité au sein du centre de documentation, c'est effectivement de recevoir ces fonds d'archives privées. Alors quand on parle de fonds d'archives privées, on a l'impression qu'on parle d'un volume. Tous rassemblés, ça forme un gros volume effectivement, mais ce peut être un don d'une lettre, 3 photos, un témoignage, des dons vraiment d'une importance en volume très variable, mais les personnes donc viennent à nous pour nous poser des questions souvent, ils veulent avoir des précisions sur une arrestation, les conditions d'un internement, etc. Et systématiquement en retour, nous on les interroge aussi pour leur demander si eux ils ont des informations complémentaires que nous n'avons pas, et s'ils ont des photos, s'ils ont des documents. Donc il y a aussi des personnes qui viennent spontanément nous confier des documents, soit parce qu'ils les ont trouvés totalement par hasard et qu'eux-mêmes n'ont pas de lien avec cette histoire et qu'ils ont conscience quand même de l'importance de ces documents et font une démarche volontaire et spontanée. On reçoit parfois des enveloppes, des expéditions anonymes en nous disant « voilà, j'ai trouvé des documents sur une poubelle ou à tel endroit, etc. » et hop, ils nous les envoient. Donc on trouve de tout. Mais la plupart, ce sont les gens qui nous les apportent eux-mêmes, les familles donc.
Et alors ce qu'on lit dans ce recueil, c'est que souvent les gens les donnent quand il n'y a plus personne à qui on peut les transmettre. Quand la chaîne des héritiers s'arrête, quand les derniers membres de la famille concernée ont disparu, c'est souvent, vous êtes le dernier chaînon en fait.
Parfois, c'est effectivement la motivation. Les gens arrivent en âge, alors oui, soit ils pensent qu'il n'y a personne... Ils savent qu'il n'y a personne derrière eux à qui les confier. Eux, ils les ont gardés très précieusement, mais ils ont peur que derrière eux, cela soit perdu, détruit. Certains ont des doutes sur, effectivement, la conservation ou l'avenir de ces documents. Il faut, je pense, il est important de dire que nous ne nous attachons pas forcément à exiger les originaux des documents quand les gens nous les remettent. Il est évident qu'on ne va pas déposséder... un enfant, j'allais dire, ou une famille, en tous les cas, de la dernière lettre de leur père, mère, grand-mère ou autre, s'ils n'y tiennent pas. Voilà. Nous, ce qui est important pour nous, c'est de conserver la trace de l'existence de cette personne, de son témoignage. Et donc, aujourd'hui, on a en plus des méthodes de conservation autres qui nous permettent de numériser en bonne qualité, etc. Et donc, on est tout à fait preneur également de copies. Mais c'est vrai que là, la source ne se tarit pas. Et les gens avançant en âge, effectivement, encore la semaine dernière, une personne me disait « Je vous le prête pour que vous fassiez une reproduction, mais après, je vous le donnerai certainement. Mes filles n'auront pas besoin de l'original. » Et voilà. Mais ça, c'est avec le temps. Par ailleurs, il y a au moins une lettre qui est publiée dans le recueil, qui nous a été remise par un monsieur. Alors, on n'a pas du tout noté, à l'époque où c'est arrivé, l'historique du don. Le monsieur est décédé depuis, il était médecin. J'ai interrogé sa veuve. Il n'a aucun lien avec la personne qui a écrit la lettre. Là, nous sommes sur une piste. Apparemment, il y a de la famille qui reste. Et on va peut-être pouvoir reconstituer le chaînon manquant et avoir la photo qui nous manquait également de Madame Stabride, donc, et de ses trois filles qui ont été arrêtées, déportées, sans retour.
Oui, parce que ce livre, il faut le dire aussi, est accompagné de beaucoup de documents. D'ailleurs, déjà, il y a les facsimilés des courriers et puis des photos, beaucoup de photos.
Alors là, je dois remercier également les éditions Robert Laffont. Ils ont été assez extra parce que d'abord, ils ont accepté. C'est vrai que l'important pour moi, c'était d'avoir les reproductions des lettres. Ça dit beaucoup, ça montre beaucoup ces lettres écrites. On le voit dans des conditions très difficiles.
Oui, on voit des petits morceaux de papier arrachés, les papiers remplis à ras-bord, écrits dans tous les sens, avec une écriture très...
Une écriture très maladroite, souvent écrite par des enfants, donc, puisque les parents ne maîtrisaient pas toujours le français, avec ou sans faute d'orthographe. Quant au cahier photo, bon, on avait évoqué effectivement de mettre quelques photos. On l'a dit, une photo du Veldiv, il n'y en a qu'une, donc... il nous restait surtout les portraits des gens et finalement ce sont les éditions qui m'ont proposé de mettre toutes les photos des personnes qu'on avait. Donc malheureusement nous n'avons pas les photos de toutes les personnes qui ont écrit les lettres. J'espère que ça viendra, mais toutes celles dont nous disposions à ce jour, nous les avons publiées. C'est d'autant plus émouvant.
Alors si on en vient aux lettres à proprement parler, ce qui est intéressant et bouleversant, c'est qu'il s'agit donc de lettres qui partent du Veldiv et justement, vous l'avez dit, de lettres de famille, puisqu'au Veldiv ont été rassemblées les familles, les adultes isolés ont été donc à Drancy. Et parmi ces familles, il y a donc beaucoup d'enfants, beaucoup de femmes et souvent des familles sans hommes, puisque les hommes, eux, s'étaient cachés parfois.
Oui. C'est vrai que la répartition, en principe, se faisait de cette façon-là. Les familles avec enfants au Veldiv et les célibataires ou couples sans enfants à Drancy. Pour autant, on a des cas dans l'ouvrage, celui de Anna Camilla Lax, par exemple. Elle est arrêtée seule et internée au Veldiv. Je ne peux pas expliquer pourquoi, pour l'instant. Il y a eu La règle n'a pas toujours été suivie. Pour autant, effectivement, ce sont essentiellement des femmes avec des enfants, les hommes ayant été se cacher juste avant la rafle. Pour la plupart, ils ont été pris ensuite et déportés. Les enfants écrivent les lettres la plupart du temps, encore une fois, parce que les parents, donc la rafle visait essentiellement les juifs étrangers. Les enfants, eux, étaient pour la plupart nés en France, ou en tous les cas étaient scolarisés et maîtrisaient donc, la langue française. Donc c'est eux qui étaient chargés d'écrire les lettres. Et puis ces lettres sont tout à fait riches en informations aussi, parce qu'il n'y avait pas... toute correspondance avec l'extérieur était interdite. Donc les lettres n'ont pas pu franchir la censure, puisque de censure, il n'y avait aucune censure mise en place. Donc on donne dans ces lettres des informations également brutes, de choses qu'on n'aurait certainement pas pu dire s'il y avait eu évidemment la censure. Et même vis-à-vis quand on lit les lettres qui suivent, écrites du camp de Pithiviers, déjà le ton pour certaines est différent.
Oui, on voit bien le dénuement. Et puis surtout, ce qui est impressionnant, c'est qu'on voit à quel point les familles sont dans l'ignorance à l'époque. C'est-à-dire que pour la plupart, mis à part quelques lettres, on ne peut pas, elles n'imaginent pas ce qui les attend. C'est-à-dire que c'est inimaginable.
On est en juillet 42. Effectivement, à part une lettre qui est vraiment, presque prémonitoire, la personne qui écrit dit « je ne veux pas mourir en Pologne, je veux mourir toute seule sans mon fils », etc. Il se trouve que c'est la seule personne dont l'histoire est présentée dans l'ouvrage et qui survivra. La maman a été déportée, elle reviendra de déportation et son petit garçon dont elle parle dans la lettre, lui, réussit à être extrait de Drancy in extremis et à être caché. Il est toujours en vie aujourd'hui d'ailleurs. Mais non, les familles ne savent pas, en juillet 42, les gens ne savent pas ce qui va advenir d'eux. Ils pressentent le pire, ils ne l'expriment pas forcément par écrit, évidemment. Et déjà, même si les lettres ne subissent pas la censure, malgré tout, ils écrivent pour prévenir, pour demander de l'aide et aussi pour rassurer. Donc il y a une certaine retenue sur ce qui est dit dans les lettres. comme toujours, c'est vraiment extra... enfin, c'est un fait récurrent. Ça a toujours cette retenue et cette idée en tête de je rassure, je vais bien, ne vous inquiétez pas, je m'en sortirai, on se reverra, on reviendra, on sera tous réunis. Enfin, beaucoup d'espoir, mais...
Oui, il y a effectivement beaucoup d'espoir. Et puis, on sent aussi la dureté des temps. C'est-à-dire qu'il y a aussi beaucoup de choses qui concernent des questions matérielles. Se nourrir, récupérer les biens qui ont été abandonnés dans la maison pour pas qu'on les perde, les redistribuer à ceux qui sont dehors. Il y a aussi comme ça tout un... On sent une importance de la vie matérielle qui était très rude à ce moment-là.
Bien sûr. Encore une fois, on est en juillet 42. La persécution antisémite avait commencé depuis à Paris et en région parisienne... Enfin, dans toute la zone occupée depuis quelques mois déjà. Il y avait une importance qui était donnée aux choses, bien plus... Enfin, qui se ressent, et la moindre économie, que ce soit en nourriture, en vêtements, etc., avait une importance extraordinaire. Donc, on a peur que les biens soient pillés, on espère que des mains secourables vont pouvoir vous envoyer des colis pour améliorer le quotidien. Enfin, déjà dehors, c'était très difficile. Le ravitaillement était très difficile pour les Juifs, plus encore que pour le reste de la population. Dans les camps, et particulièrement au Veldiv, où il n'y avait rien. Je veux dire, on les a entendus, ces témoignages qui disent qu'on n'avait pas d'eau. On est en juillet 42, il fait une chaleur étouffante. Il n'y a pas d'eau, il y a très peu de quoi manger. Enfin, c'est...
Les conditions d'hygiène, la maladie, les épidémies qui se déclenchent très vite au sein du vélodrome. Et effectivement, les enfants qui tombent malades, et puis il y a des femmes aussi, des femmes enceintes. Enfin, on voit effectivement qu'il y a des conditions qui sont totalement incroyables. Et les gens d'ailleurs le disent, ils sont stupéfaits. Il y a une lettre qui dit, voilà, je vous assure, on croit rêver, ce n'est pas possible qu'une chose aussi horrible nous soit arrivée. Les gens n'en reviennent pas de ce qui se passe.
Oui. La stupéfaction, effectivement, ça c'est quelque chose qui revient dans la plupart des lettres. La stupeur, la soudaineté de l'arrestation. Alors c'est très difficile de se remettre dans le contexte, parce qu'on lit ces lettres tout en sachant, nous, lecteurs, ce qui est arrivé par la suite. Notre regard est faussé souvent. Donc il faut faire abstraction de tout ce que l'on sait pour essayer de recontextualiser, de se dire, bon, mais à ce moment-là, voilà, c'était leur situation, comment eux pouvaient... C'est aussi une difficulté de l'exercice. Ceci dit, la stupéfaction, effectivement, c'est quelque chose qui revient régulièrement. Donc les demandes de secours, mais également vouloir rassurer, encore une fois, c'est quelque chose d'important. Et puis l'avenir, parler beaucoup de l'avenir.
Et puis il y a cette question aussi qu'il faut aborder, en particulier avec cette rafle du Veldiv, c'est la question des enfants. C'est-à-dire que là, les enfants sont arrêtés et les enfants, à l'initiative du gouvernement français, seront déportés. Ils seront donc en attente ensuite au camp de Beaune-la-Ronande. Ils attendront donc que le régime nazi autorise cette déportation des enfants, qui sera autorisée. Et donc c'est c'est la première fois que surgit cette question des enfants. À la fois la peur d'être séparés et à la fois la stupéfaction de voir les enfants mis dans de telles conditions.
La peur d'être séparés, les parents en parlent d'ailleurs. Effectivement, au moment de l'arrestation, je pense que la plupart des parents ne pensent pas qu'on va leur prendre les enfants, qu'on va déporter les enfants, donc ils ont peur d'être séparés. C'est vraiment leur inquiétude. Mais c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne s'est pas limité à publier les lettres du Veldiv, mais également à mettre les lettres écrites ensuite de Pithiviers, et où on a là toute la chronologie qui se déroule sous nos yeux. Donc au Veldiv, ils sont ensemble malgré tout, dans des conditions déplorables, mais ensemble. Ils arrivent à Pithiviers ensemble et puis progressivement ils sont séparés. Et donc ce sont les enfants seuls qui continuent à écrire des lettres quand ils en ont la possibilité. Il y a le cas de la famille Stockfies qui est arrêtée avec son fils et sa fille. Bon, donc, la maman est déportée. Le jeune homme qui a 16 ans reste tout seul à Pithiviers, mais avec sa petite sœur qui a 5 ans. Et il continue à écrire à sa tante en lui expliquant qu'il faut qu'il les sorte de là. Mais surtout, faites quelque chose pour la petite Raymonde. Pour moi, c'est pas grave, mais surtout, sauvez Raymonde, elle n'a rien. Et même les enfants seront séparés et déportés.
Oui, et ce qu'il faut dire aussi d'ailleurs, c'est que ce sont ces grandes rafles de juillet 42 qui ensuite ont alerté les organisations juives et la population sur le fait qu'effectivement, si on déporte des enfants, si on déporte des vieillards, si on déporte des femmes, c'est qu'il ne s'agit pas d'aller travailler. Et à ce moment-là, c'est à ce moment-là qu'on a commencé à cacher les enfants de manière beaucoup plus systématique.
Bien sûr, de façon beaucoup plus systématique. La partie, même au niveau des organisations juives officielles, dites le GIF, donc là, s'est développée la partie clandestine de leurs activités et le sauvetage des enfants de façon... plus général, effectivement, que ce soit par des organisations juives ou non juives, ou par des individuels, mais en fait, effectivement, les lettres lues en chaire du clergé catholique pour alerter la population, et bien sûr, on a là la rafle du Veldiv, puis ensuite les rafles de août 42 en zone libre, qui elles aussi vont déclencher vraiment le système de sauvetage, de planquage, de réaction de la population française qui a permis le sauvetage d'un grand nombre de la population juive qui vivait en France à l'époque.
Alors vous l'avez dit, hein, ce livre, la particularité qu'on a quand on le lit en tant que lecteur, c'est de connaître la fin de l'histoire. C'est ce qui donne toute cette violence presque parfois insoutenable, hein, à la lecture de ces lettres qui sont pour la plupart pleines d'espoir. Néanmoins, on voit aussi ce qui à l'époque se disait, c'est-à-dire que la plupart des gens pensent effectivement qu'ils vont moissonner dans l'Est. Ça revient beaucoup aussi dans les lettres.
Bon, c'est certainement effectivement ce qu'on leur laissait entendre et ce qu'ils pensaient être envoyés pour travailler. Oui, alors est-ce qu'ils le disent pour se rassurer eux-mêmes ou pour rassurer ceux qui restent à l'extérieur ? Bon, ça. Si les lettres du Veldiv sont encore... pleine d'espoir, non, mais en tous les cas, se veulent rassurantes, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire d'eux. Plus on avance, effectivement, dans les lettres écrites plus tardivement, moins je pense qu'ils ont d'espoir. Après, c'est, je suis en bonne forme, je suis en bonne santé, je reviendrai. Le fait est que la plupart ne sont pas revenus, effectivement.
Oui, c'est quelque chose qu'il faut rappeler, je pense, de manière systématique. C'est que voilà, les gens qui ont été arrêtés lors de la rafle de la Veldiv, dans leur très, très immense majorité, ne sont pas revenus.
Absolument. On est en juillet 42. La libération des camps ne se fera qu'à partir du printemps 45. Donc déjà, il fallait passer... la sélection à l'arrivée dans les camps. Or, pour la population juive, enfin les juifs envoyés dans les camps, la sélection était très rude, la plupart étaient exterminés dès leur arrivée. Et pour ceux qui franchissaient la sélection parce que à ce moment-là on avait besoin de main d'œuvre et que ils passaient à travers la première sélection, il fallait passer 3 ans dans les camps. C'est aussi pour ça que Antonina Pechner, qui est donc la seule rescapée des personnes dont il est question dans l'ouvrage, c'est tout à fait extraordinaire qu'elle soit revenue.
Alors merci encore Karen Taïeb. Donc je pense qu'il y aura peut-être d'autres lettres à découvrir au fur et à mesure des années qui pourront venir jusqu'à vous, donc aux archives, au centre de documentation du mémorial de la Shoah. Donc je rappelle que votre livre qui rassemble ces lettres donc du Veldiv est paru aux éditions Robert Laffont sous le titre donc Je vous écris du Veldiv, et qu'il y aura une présentation de ce livre au mémorial le 17 juillet, donc avec les descendants et le dernier survivant de...
Tout à fait. Donc les familles qui nous ont donné les lettres seront toutes là. Et le fils d'Antonina Pechner, donc Henri Pechner, vient d'Argentine nous retrouver à cette occasion-là.
C'était Mémoire vive, une émission de la Fondation pour la mémoire de la Shoah. 3 adresses pour nous retrouver et nous réécouter sur Internet. www.radio-rcj.info, le site de la Fondation, www.fondationshoah.org, le site des archives de l'émission, www.mémoirevive.net. À dimanche prochain.